membre du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué go sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, les jeunes, en font totalement de façon ça.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bienvenue sur Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info du vendredi, Canu Info de 19h. Donc aujourd'hui, le fil, alors nous allons commencer par une petite visite vers l'atelier des canulars où nous avons un envoyé spécial qui est venu recueillir la parole du collectif Intermed. Et ce collectif va nous présenter ce qu'il propose ce soir à l'atelier des canulars. Ensuite, nous parlerons dans l'information nationale du procès qui est ouvert contre le site d'information IATA. Ça sera également l'occasion de revenir sur l'actualité de la loi sur le renseignement. Et puis d'un texte également qui s'appelle Occupy DGSI dont on vous parlera. Et puis on terminera cette heure d'information avec des informations internationales. Et comme très souvent dans le Canu Info du vendredi, on vous parlera donc de gaz de schiste et donc...
Du gaz de schiste.
Oui, du gaz de schiste et d'EDF, pardon, qui investit à l'international, donc sur cette ressource. On terminera évidemment par le fameux et précieux agenda. Donc tout de suite, on part voir le collectif et écouter le collectif Intermed, invité à l'atelier des canulars par un autre collectif, alors, Nébuleuse.
Ça marche. Allô.
Ma
formation
d'apprentissage.
Ouais. Allô, 1, 2, 3, est-ce que vous nous entendez?
Ah,
entend des trucs derrière.
On t'entend pas là. Allô.
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 Est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu m'entends ma voix?
Allô.
Allô. Allô. L'atelier des canulars. Allô.
Ah, ça y est. J'entends un tout petit peu, mais c'est bizarre parce que le son il est très très bas.
D'accord. J'augmente un peu le volume des micros.
Et celui de ton portable.
Voilà.
Est-ce que c'est bon là? Est-ce que tout le monde s'entend? Allô.
Allô.
Oui.
Ah, magie de la technique, on s'entend.
Ouais, est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend très très bien, les auditeurs vous entendent très très bien.
Moi, je vous entends pas très bien.
Ah, merde.
Mince, crotte.
Je remonte un peu les micros. Allô.
Non, j'entends.
Est-ce que ça va mieux là?
Ouais, ça va bien mieux.
Ah, bon, parfait.
Parfait.
J'ai réglé le problème.
T'as branché ton micro?
Non, presque.
Donc le local de Radio Canu est relié maintenant à l'atelier des canulars et le collectif Intermed va donc vous présenter la soirée de ce soir à l'atelier au 91 rue Montesquieu qui commence maintenant à 19h. On vous écoute.
Oui, alors bonjour, on est le collectif Intermed et on organise ce soir à partir de maintenant une soirée de projection de deux courts-métrages sur le thème de les handicaps et les sexualités, donc handicap et sexualité. Ces deux courts-métrages qu'on donc diffuse à l'atelier des canulars qui sont Mon amoureux de Daniel Medge et L'homme de compagnie de Philippe Thomas. Et c'est deux courts-métrages qui abordent donc le thème des handicaps et des sexualités. Et on a choisi ce soir de faire des arrêts sur image et de débattre, en tout cas d'échanger sur les thèmes que les courts-métrages évoqueront au public.
D'accord, et donc du coup c'est des courts-métrages qui ont été produits récemment sur le sujet ?
Alors, Mon amoureux est de 2012 et L'homme de compagnie de 2003.
D'accord, et alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être du collectif Intermède et du pourquoi ?
Ah, j'entends pas la question.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous présenter un petit peu le collectif Intermède ?
Oui, alors le collectif Intermède, on s'est réunis au départ, on est des travailleurs sociaux et on travaille dans des institutions du médico-social. Et notre idée, c'était de se réunir pour réfléchir ensemble ce qu'on ne peut pas toujours faire dans nos institutions et d'élargir le débat à des gens qui ne seraient pas du médico-social sur des thèmes un peu plus larges. On avait fait un premier atelier d'écriture sur la trace et la traçabilité. La traçabilité dans les institutions et puis de l'élargir un petit peu plus la société. Et voilà, donc on avait fait un premier atelier d'écriture et ce soir on a choisi le format court-métrage et arrêt sur image. Notre idée c'est d'essayer de changer de média au cours des ateliers qui suivront.
D'accord. Voilà. Et alors, quand vous parlez d'arrêt sur image, c'est-à-dire que vous allez commenter des passages des films ou regarder les films et ensuite discuter ?
Alors, on va regarder les films en entier, en première partie de soirée. Et ensuite, l'idée, c'est on a sélectionné des photos, des images des films qu'on espère que les gens vont commenter et que nous, sur lesquels on a aussi des idées, on a travaillé sur ce que ça nous évoque, ce que ça nous fait vivre. On peut faire des liens avec des situations dans nos institutions. Voilà un petit peu la façon dont on va procéder.
D'accord. Eh bien, écoutez, très très bien. Vous avez d'autres informations à ajouter ou d'autres paroles ?
Non, on n'a pas encore. On va s'arrêter pour l'été parce qu'on sait que c'est un peu plus creux. Et puis on prendra notre actualité en septembre. On publiera sur les sites, on peut citer les sites sur lesquels on publie, sur Rébellion, sur Nébuleuse, pour notre prochaine rencontre.
D'accord, donc on suit l'actualité du collectif Intermède à la rentrée, donc fin août, début septembre, j'imagine, sur Rébellion ou sur le nouveau site, la nouvelle plateforme Nébuleuse. Écoutez, merci. Donc les auditeurs sont invités. Dès maintenant, ça a ouvert ?
Ça a ouvert maintenant, ouais, et on commence la projection à 20h. Venez nombreux, on vous attend. Et puis merci beaucoup pour le passage à l'antenne.
Eh bien, on vous en prie, on rappelle l'adresse. C'est bien au 91, c'est ça ? 91
c'est 91 rue Montesquieu, l'atelier des canulars.
Voilà, 91 rue Montesquieu, dans le 3e à la Guillotière. Et merci à notre technicien pour cette...
Yeah. Merci au technicien, merci beaucoup. Au revoir.
Cette insertion téléphonique formidable. Merci, au revoir.
Alors, du coup, on va enchaîner avec la suite et c'est parti.
Au beau milieu du quotidien, existe une dimension régie par les lois les plus folles. Une dimension où les faits et les choses prennent un tour singulier. On fait entrer sur ce terrain glissant entre ombre et lumière, où s'ouvrent en grand les portes de l'arbitraire, de la férocité, de la vengeance d'État, n'importe où, au coin d'une rue, à la sortie d'un bar, au saut du lit ou dans un rassemblement. Vous entrez alors dans une dimension où se côtoient humiliation et condescendance, où les mots ne sont plus les mêmes, où la force sert à la loi et la loi sert à la force.
1-74-09-99-192-168-01. En procès pour lire et soutenir la presse libre. Je suis 1-74-09-99-192-168-01. Je risque 5 ans de prison et 40 000 euros d'amende parce que je suis lecteur et solidaire de la presse libre. Je suis 1-74-09-99-192-168-01. Parce que ce sont des traces numériques que le grand filet de la surveillance a révélées, des traces d'appareils électroniques. Je suis 1-74-09-99-192-168-01. Parce que je suis un parmi d'autres, des femmes et des hommes qui ont plus à craindre qu'à espérer de l'action de l'État. puis celui qui faisait l'apologie de la violence, qui rédige un vademécum du parfait casseur. Pour les 755 000 lecteurs et lectrices de La Dépêche, je serai toujours un homme de 40 ans qui avait incité sur un site internet à commettre davantage de casses, et ce, au mépris d'un certain nombre de règles légales, la présomption d'innocence par exemple. Mais combien cela me coûterait-il de porter plainte? Pour quel résultat au final? Est-ce que cette justice qui m'attaque est capable de me défendre? J'en doute. Je suis 1 74 09 99 192 168 01. La police est venue me chercher à 6h30 du matin et j'ai passé 10 heures dans une geôle qui sentait l'urine. Ils ont menacé de venir chercher mon fils au lycée, de m'inculper pour apologie de terrorisme. Parce que je lis et que je soutiens la presse libre. Presse libre parce que libérée des intérêts marchands. Presse libre parce que diverse et déterminée, ancrée localement au plus près des luttes. Une presse qui ne me dit pas quoi penser, mais qui me donne à voir, à comprendre en prenant clairement position.
L'espace médiatique est la grande scène où se situent les scènes principales de la vie collective. Elle les compose et elle les reflète. Sans ces sites internet, ces radios libres, ces journaux, il y a tout un tas de choses que je n'aurais sans doute jamais su. Quelques exemples. Bilal Enzo Abonayo, tué par la police, et qui a été présenté tout d'abord comme djihadiste. C'est grâce au travail du site larotative.info que la version policière sera démentie. Les circonstances réelles de la mort de Rémi Fraisse sont révélées dans leur intégralité par reporter avant que cela soit admis officiellement. La grève à Radio France, en février, qui annonçait la plus longue grève de la radio publique et de son histoire, a été relayée sur Canal Sud. Et d'une manière générale, ce sont des médias libres qui relaient les paroles des personnes qui luttent. La richesse et la diversité de cette presse est incommensurable. Si je n'ai plus la presse libre, je deviens à moitié aveugle. Mon monde n'est plus exprimé que par des artistes et des journalistes, des économistes et des experts, avec qui j'ai socialement peu de choses à voir. Cette presse-là ne me donne pas de prise sur le monde qui m'entoure. Au contraire, cette information me le rend distancié, flou, parce que sans correspondance avec ma vie et mes préoccupations. Comme si ce que je vivais n'avait pas de consistance collective. Le monde semble vivre à milieu de mon expérience concrète, du chômage, de la précarité et de l'injustice que je constate autour de moi. À la façon des lunettes, les journaux fabriquent des non-vus à partir duquel le monde est vu. Ces derniers mois ont eu lieu de nombreuses manifestations à Toulouse. Systématiquement, la presse locale et nationale a titré sur les violences, le verre brisé, les courses-poursuites. Ça manquait cruellement de certains détails. Moi, j'ai vu 500 policiers pour 300 manifestantes. J'ai vu la violence et le mépris vis-à-vis de tout ce qui ne portait pas l'uniforme. J'ai vu des hommes cagoulés, armés, bloquer des rues. J'ai vu des citadins, des citadines, gazés, sans distinction. J'ai vu les condamnations judiciaires pleuvoir sur des personnes arrêtées au hasard. J'ai vu les entorses à la procédure. J'ai vu la violence du maintien de l'ordre. Je n'ai rien lu de tout cela dans la presse dominante. Il n'y a que la presse libre qui s'en est faite le relais. C'est seulement là que j'ai perçu que je n'étais pas seul à être scandalisé et en colère. Au bout de ces mois d'occupation policière, de procès expéditifs, comme si cela ne suffisait pas, je me retrouve moi aussi pris dans la machine judiciaire. Je sais que mon cas n'est pas isolé. Je sais que beaucoup, qui comme moi, luttent pour un monde débarrassé de l'exploitation et des dominations, connaissent la prison, les vexations, les mutilations. Je sais que beaucoup, parce qu'ils et elles sont au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'ils et elles ont la mauvaise couleur de peau, le mauvais passeport, parce qu'ils et elles sont pauvres, connaissent aussi la prison, les vexations, les mutilations. Je sais que ce système repose sur une part non négligeable de violence légale. Je le sais, parce que je le vis, mais aussi parce que je peux connaître des cas semblables, savoir ce que beaucoup vivent, parce que je lis la presse libre. Est-il donc absolument impossible d'opposer aux puissances de l'élimination l'organisation des éliminés? Ces sites, ces radios, ces journaux sont une organisation concrète des éliminés, des exploités, des dominés, des opprimés. Et c'est pour ça qu'on les attaque, qu'on veut les faire taire.
Je suis 1 74 09 99 192 168 01. Je risque 5 ans de prison et 40 000 euros d'amende pour faire taire la solidarité et la presse libre.
Et donc on vient d'entendre, en fait c'est la lecture d'un texte qui est paru il y a une semaine ou deux. Donc en fait c'est la fameuse personne qui est 1-74-09-99, je me souviens plus de la suite. C'est une personne qui a été arrêtée à Toulouse et inculpée donc d'incitation au crime et à la violence. Et donc c'est un peu de ça dont on va parler entre autres. Donc ça concerne le site yata.info. Et donc voilà, donc on va vous parler un peu de ce qui se passe pour ce site, mais aussi justement tout ce qui est un peu autour et tout ce que ça enclenche un peu autour. et notamment sur ce fameux projet de loi sur le renseignement. Donc on va un peu revenir là-dessus. Ouais. Et avant de revenir un peu aussi sur ce qui touche actuellement IATA, dont le procès est le 29 juin, c'est-à-dire dans une semaine.
Donc après les attentats de janvier, l'État s'est donc doté, est en train de se doter d'un nouvel arsenal. C'est la fameuse loi sur le renseignement. Alors l'actualité de cette loi, c'est qu'elle vient d'être adoptée ce mardi après-midi en seconde lecture par le Sénat. 251 voix pour, contre 68. Alors, quelle est l'actualité de cette loi ? Lors de leur débat, les sénateurs ont apporté quelques toutes petites modifications au texte qui avait été préalablement, au mois de mai, adopté par l'Assemblée nationale. Pour autant, tout ce qui porte sur les fameuses boîtes noires, dont on a pas mal entendu parler, a relativement peu changé. Alors, pour rappel, ces boîtes noires seraient mises chez les fournisseurs d'accès, donc tous les fournisseurs d'accès. Un fournisseur d'accès, c'est par exemple Free, SFR, Bouygues, etc., tous ceux qui vous vendent un accès à Internet et un modem. La boîte noire serait constituée d'un algorithme qui passerait au crible l'ensemble du trafic Internet et dresse ainsi, à partir des métadonnées que collecte cette boîte, un espèce de profil type de l'internaute, de l'utilisateur. Et donc, de fait, cette boîte noire espionne l'ensemble des internautes, hein, qui sont tous, nous sommes tous surveillés dès lors, pour détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Voilà, alors lors de la lecture du texte au Sénat et de la présentation de ce texte par le gouvernement n'a eu de cesse de mettre en avant, parfois même de manière très contradictoire, l'imminence et le danger de la menace terroriste et le travail de longue haleine mené sur ce texte, donc, qui a été imposé en à peine 3 mois, on le rappelle. La loi sur le renseignement deviendra donc le quatrième texte en 3 ans, portant au moins pour partie sur cette fameuse et très floue menace terroriste, à laquelle on peut faire dire tout et à peu près n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce sujet qui a largement dominé, comme je le disais tout de suite, les débats au Sénat, où les différents orateurs ont prononcé plus de 300 fois le terme terrorisme et le terme associé qui est terroriste. Voilà, alors que bon, ce texte, au passage, comme son nom l'indique, hein, son nom c'est le renseignement, la loi sur le renseignement, et donc c'est une loi sur le renseignement en général. Un député en mai qui s'opposait à ce texte, Bernard Cazeneuve, a notamment déclaré, alors je cite et j'ouvre les guillemets, ce qui est toujours difficile à la radio, « Ceux qui portent atteinte aujourd'hui aux droits de l'homme, ce ne sont pas les services, mais ce sont les terroristes. Ce sont eux qui constituent un véritable danger pour les valeurs fondamentales de la République. Ce sont eux qui aujourd'hui s'attaquent à des journalistes, à des Français, parce qu'ils sont de confession juive, à des policiers, parce qu'ils portent l'uniforme, et qui pourraient demain s'attaquer à des personnes qui sont détentrices de l'autorité publique. Ce sont donc les terroristes et jamais cette loi, ni les services qui profiteront de cette loi, donc les services de renseignement, qui mettent en cause les libertés fondamentales des citoyens français. Voilà, alors enfin pour terminer sur l'actualité de cette loi, quand est-ce qu'elle sera véritablement mise en application et que les services pourront officialiser toute leur surveillance? Eh bien, après le vote au Sénat de ce mardi, le texte sera examiné par une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission composée de députés et de sénateurs. L'Assemblée tranchera les points sur lesquels cette commission n'aura pas pu se mettre d'accord, donc il repassera à l'Assemblée rapidement après cette lecture par une commission composée de sénateurs et de députés. Et une fois promulgué, le texte sera examiné par le Conseil constitutionnel. Voilà donc pour l'actualité de cette loi sur le renseignement.
C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant.
Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
Oui, effectivement, ce truc fasciste me donne envie de vomir. Alors du coup, pourquoi on parle de loi sur l'enseignement? En fait, pour revenir sur le truc de IATA, donc le fameux numéro 1-7409, en fait, c'est des identifiants numériques par lesquels la personne a été, a été interpellée, etc. Donc, on peut le dire, je pense. Gandhi a balancé IATA en filant ce qu'on appelle les informations de log, les informations. Plein d'informations comme ça.
Mais Gandhi, pas l'Indien. Gandhi.
Non, pas mort. Gandhi, c'est un registrar, ce qu'on appelle registrar, c'est un fournisseur de nom de domaine. Donc voilà, et donc c'est eux qui ont. Et donc IATA a son nom de domaine enregistré sur Gandhi, et c'est eux qui ont donné les informations qui avaient trait à certains trucs par rapport au site. Donc voilà, dont les logs. Donc c'est pour ça, en fait, et là, on parlait de la loi sur l'enseignement, en fait, ça serait une surveillance quasi systématique et généralisée de ce type de ce type d'information. Et donc, là, on va parler de... Donc pareil, on va continuer sur la loi contre le renseignement, parler d'un mouvement qui s'est créé, qui s'appelle Occupy DGSI. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, c'est un peu pour dénoncer un peu ce projet de loi. Et en fait, il questionne sur l'étrange raisonnement qui consiste à dire « Puisque la police a telle ou telle pratique illégale, autant la légaliser. » Donc, plutôt que d'en déduire ce qui serait tout de même plus logique, qu'elle doit cesser d'avoir ses pratiques. Et donc, si la sous-direction antiterroriste se mettait régulièrement à torturer des suspects afin de déjouer des attentats, dirait-on, n'y a-t-il qu'à légaliser la torture ? Dire oui, c'est un peu la guerre d'Algérie, enfin, voire même d'autres guerres. Ce qu'on appelle les Extraordinary Rendition de la CIA après le 11 septembre, dont le Sénat américain a jugé à l'automne dernier, donc il n'y a pas très longtemps, que les États-Unis y avaient perdu leur valeur. Donc c'est à l'autre bout la même logique devenue folle qui fait conclure à des parlementaires, attention, que pour éviter que des manifestants ne soient blessés par la police, il n'y a qu'à leur interdire de manifester. Super facile. Et donc, ouais. On règle le souci comme ça, quoi. Avant de donner un pouvoir sans contrepartie aux services de renseignement, avant de mettre la police antiterroriste à l'abri de tout contrôle et de tout recours, il n'est pas mauvais quand même d'écouter ce que ces personnes disent de leur métier. Donc ainsi, c'est Alain Chouet qui dirigea le service de renseignement de sécurité de la DGSE, qui déclare « Ce n'est rien, c'est ne rien comprendre que d'accuser les services secrets de faire dans l'illégalité. Bien sûr qu'ils font dans l'illégalité, ils ne font même que ça. C'est leur vocation et leur raison d'être. Le renseignement se recueille en violant ou en faisant violer la loi des autres. » Considérer cette fin, il va de soi que les moyens mis en œuvre seront en rapport. Manipulation, séduction, corruption, violence, menace, chantage, au terme d'un processus qui aura mis à nu toutes les facettes de l'objectif visé, pénétrer son intimité, exploiter toutes ses vulnérabilités. Donc voilà. Et là, il a fini de parler, le fameux monsieur. Fermez les guillemets, tout à fait. C'est très difficile à la radio. Donc, sommes-nous sûrs, du coup, la question se pose, sommes-nous sûrs de vouloir faire un chèque en blanc? Donc là, je vous lis un peu un texto, ce que dit ce fameux collectif Occupy DGSI, à ce genre d'individus, comme le fait la loi sur leur renseignement. Donc, depuis que la DCRI existe, on a connu d'elle surtout des scandales, des ratages, des mensonges sur ces ratages. Elle a même dû rebaptiser DGSI pour faire oublier sa mauvaise réputation qu'elle s'était faite, hein, en si peu d'années d'existence. Donc la loi sur le renseignement est essentiellement faite pour alors a priori de futurs scandales à son sujet ne sortent pas, et pour verrouiller une situation sociale pas très stable, un contexte politique tendant vers l'ingouvernable. Donc le train de loi et de propositions de loi toujours plus féroces que le gouvernement multiplie depuis les attentats de janvier s'apparente à une offensive omnilatérale profitant de l'état de choc de la population. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé avec Charlie, on saute un peu sur l'occasion. Donc pour citer donc une conseillère du ministre du Commerce britannique a écrit donc suite à l'attentat du 11 septembre, ben, quasiment dans l'heure qui suit, c'est un très bon jour pour faire ressortir et passer en douce toutes les mesures que nous devons prendre. Alors donc nous les mesures on les comprend comme loi Macron, Rapsemen, loi sur le renseignement, réforme sur le droit d'asile, loi anti-squat, etc., etc. Donc elles sont autant de fronts ouverts simultanément dans une sorte de ils emploient un terme bizarre que j'arrive pas à lire, blitzkrieg social.
Guerre éclair.
Ouh, un spécialiste. Donc dans ce dispositif, la loi sur le renseignement fonctionne comme un verrou contre du coup les révoltes. Et puisque la DGSI qui sera en charge de gérer les mouvements naissants, les dissidences potentielles et les futures interdictions de manifester, puisque c'est pour protéger les manifestants, comme cité plus haut, c'est devant ces locaux que nous proposons de manifester. Donc ça, alors du coup, voilà, c'est un appel. Je vous lis un peu l'appel. C'est allons voir où sont ceux qui nous surveillent. Prenons la rue à ceux qui nous préfèrent chacun chez soi, faisons connaissance au nez et à la barbe de ceux qui nous connaissent si bien. Et donc, du coup, Occupy DGSI appelle à un rassemblement. Donc c'est dimanche 21 juin, donc ce week-end. Alors, c'est à Paris. Hein. Je vous donne l'adresse, hein, si jamais vous êtes par là-bas, vous montez à Paris ce week-end. Donc c'est 84 rue du Villier, Levallois-Perret. Donc c'est de midi à 18h. Et donc voilà, donc c'est pour protester contre cette loi, contre le rassemblement.
Renseignement.
Et c'est du coup,
c'est presque pareil. c'est vrai. Ça, c'est tellement large que ça inclut en même temps des lois contre les rassemblements. Et d'ailleurs, sur la couverture de ces rassemblements et leur interdiction, une commission d'enquête en mai 2015, présidée par le formidable écologiste et maire de Bègles, Noël Mamère, a remis à l'Assemblée nationale un rapport qui avait pour but de montrer et d'expliquer en quoi médias de masse, enfin on dit médias hein, dans ce rapport, et police ont tout intérêt à travailler ensemble. Alors étant donné qu'on a du mal à ouvrir les guillemets à la radio, on va les faire ouvrir par une autre voix qu'on écoute tout de suite. C'est un extrait de ce rapport.
Dans le rapport parlementaire intitulé « Développer des réponses plus graduelles pour mieux conjuguer ordre et liberté », nous trouvons la phrase suivante. Journalistes et forces de l'ordre ont tout à la fois un intérêt commun et un devoir de travailler ensemble. Et à tout le moins de ne pas nuire à l'exercice du métier de l'autre. En effet, la transparence sur leur professionnalisme et sur l'attitude violente et ou délictueuse de certains manifestants ne peut que servir les missions des forces mobiles et, si certains ont déploré devant la commission la diffusion de montages grossiers caricaturant l'action des forces de l'ordre à Sivens, elles étaient le fait des organes de communication officiels et monopolistiques de la ZAD. De leur côté, les journalistes ont besoin de la sécurité offerte par l'action des forces de l'ordre et que cette action ne les empêche pas de travailler en toute indépendance.
Fermez les guillemets.
Petit blanc, excusez-nous pour ce petit blanc technique. On enchaîne tout de suite sur la meilleure des polices.
Non, pas tout de suite. On va revenir sur Yatta. On va vous passer une mini explication radiophonique de ce qui se passe là-bas. Et effectivement, ensuite, nous embrayerons sur un petit interlude musical avec la rumeur. La rumeur, c'est
La meilleure des polices.
La meilleure des polices.
Rassemblement, pique-nique, ouais, c'est 29 juin.
Un pique-nique, c'est le 29 juin, c'est à Toulouse.
C'est devant le palais de justice.
Rassemblement, à 2015, à 2h. Mais vous parlez quoi du rassemblement pique-nique du 29 juin devant le palais de justice à Toulouse?
Ouais, de 2015, au palais de justice à Toulouse, quoi.
Mais vous croyez pas que les micros sont ouverts pour le... Parce que là, vous n'arrêtez pas de répéter rassemblement pique-nique le 29 juin au palais de justice à Toulouse.
Ouais, mais c'est un pique-nique, c'est à 2h en fait.
C'est un rassemblement.
Ouais, mais c'est à Toulouse.
Et c'est devant le palais de justice.
À midi. Ouais, voilà.
Ah, mais peut-être tout le monde peut venir.
C'est ça, c'est un rassemblement.
C'est un rassemblement.
Parce que c'est un rassemblement pique-nique.
29 juin.
On se rassemble.
Arrête ton char.
Arrête ton char, lis et écoute les médias libres.
Le 29 juin 2015, à 14h, au palais de justice de Toulouse, une personne passe en procès. Une personne passe en procès. Identifiée 1-74-09-99, etc. Elle a été arrêtée le 6 mai, à 6h30 du matin, a subi 10 heures de garde à vue. Elle est accusée de provocation publique à la commission d'un délit ou d'un crime. Provocation publique à la commission d'un délit ou d'un crime. Elle encourt 5 ans d'emprisonnement et 40 000 euros d'amende. L'objet du délit. Un article paru le 1er mars sur le site internet d'information IATA.
IATA.
Information anti-autoritaire, Toulouse et alentour.
Information anti-autoritaire, Toulouse et alentour.
Le contenu. Un compte-rendu critique de la manifestation à Toulouse du 21 février 2015 contre les violences policières et en soutien aux zones à défendre. Ce qui pose problème à la justice. On y trouve des propositions concrètes d'organisation des manifestantes face à la violence policière. C'est quoi ce site ? IATA est un site d'info ouvert à la publication dans lequel plus d'une centaine de personnes, ont déjà posté des articles. Dans un contexte de surenchère répressive, le 26 octobre 2014, sur les terres d'un projet de barrage à Sivens, dans le Tarn, un manifestant, Rémi F, est tué par la gendarmerie. S'ensuit à Toulouse une série de manifestations très encadrées par les forces de l'ordre et réprimées par la justice. Bilan provisoire, 69 arrestations, 40 procès, des dizaines de milliers d'euros d'amende, des mois de prison avec sursis, 9 personnes écrouées et des procédures toujours en cours. Le pouvoir n'admet aucune opposition, aucune réaction collective. Il prend systématiquement pour cible tout ce qui lui résiste. Une manière de retourner la situation, de ne pas rendre de compte sur ses exactions en général et sur cet assassinat en particulier. Cette fois-ci, c'est sur Internet que la justice cherche à créer de nouveaux coupables. Voilà comment un Toulousain, utilisateur de médias libres, va se retrouver face au juge. Il s'agit par ce procès d'attaquer les médias libres, radio, journaux et sites Internet indépendants. Parce qu'ils sont des outils pour penser par soi-même, pour s'organiser et cesser de croire que les clés de la compréhension de ce monde sont majoritairement détenues par les médias de masse. Autour de ce procès, c'est l'occasion de combattre une mécanique bien huilée. Un bouc émissaire, poursuivi afin de dissuader des gens coupables de pratiques collectives, pour étouffer toute velléité d'action critique, pour créer du repli et de la peur. Se solidariser face à la répression, c'est aussi défendre ces espaces qui diffusent un large éventail de courants de pensée, traitent de la réalité du terrain et décortiquent les rapports concrets de domination. Face au déploiement de l'arsenal répressif, pour ce procès comme pour tout ce à venir, il est important de ne pas rester isolé face à la justice, de continuer à s'organiser et se soutenir. Comité de soutien à 1-74-09-99, comité de soutien at riseup.net, vous pouvez exprimer votre solidarité sonnante et trébuchante en envoyant des dons à l'ordre de CAGE, CAJ, CO Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse. Rassemblement pique-nique le 29 juin à 12h au palais de justice. Rassemblement pique-nique à Toulouse le 29 juin à 12h au palais de justice.
Rassemblement pique-nique, ouais, c'est le 29 juin.
Un pique-nique, c'est le 29 juin, c'est à Toulouse.
C'est devant le palais de justice.
Rassemblement. À 2015.
Et oui, donc comme vous l'avez entendu à la fin du jingle, rassemblement pique-nique donc le 29 juin, le jour du procès à Toulouse. On peut signaler d'autres rassemblements donc en soutien. Alors bon, celle-là c'est pas vraiment un rassemblement, c'est plutôt une discussion publique et une conférence de presse. Donc qui aura lieu le lundi 22 juin à 19h30 au Zabar, 116 rue de Ménilmontant. Donc ça c'est à Paris. Donc voilà, bah, si vous êtes à Paris, autant y aller. Et puis pour le par rapport à ce procès, il y a aussi un appel pour faire un banquet et une assemblée populaire le dimanche 21 juin à midi devant le siège de la direction générale. Donc ça c'est le coup de ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Donc ça rejoint aussi les soucis de IATA comme on disait au début. Et donc IATA, donc c'est un site d'info qui est actuellement sous le feu juridique, mais il faut savoir que le Jura Libertaire, qui est donc un blog d'information, qui est en procès depuis quelques années, la procédure traîne un peu. Pour rappel, c'était. Oh merde, je me souviens plus de l'année.
Mince.
C'était Hortefeux qui avait porté plainte. Attention.
Quelle année ? 2011.
2011. Non, mais je crois que c'est ça. Bref. Oups.
Moi, je suis sûr. Hein.
Ok. Donc voilà, c'est Hortefeux qui avait porté plainte contre Indie Media et contre le Juralib. Alors, du coup, le procès a eu lieu le 5 mai. On vous en avait fait une mini lecture au dernier Canu Info du vendredi. Et donc là, le rendu a été donné le 16 juin dernier. Et donc, le Juralibertaire est condamné à 100 euros d'amende pour diffamation envers la police. Donc il y a quand même eu la condamnation. Ouais. Donc voilà. Après 100 euros, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Mais
ce qui compte, c'est la condamnation.
Voilà, ce qui compte, c'est que ça a été reconnu comme un
délit.
Comme un délit. Et ben du coup, comme on vous a menti tout à l'heure, parce qu'on disait qu'on allait enchaîner directement avec la rumeur. Et ben maintenant, on enchaîne avec la rumeur et le. J'ai encore oublié
la
le
meilleure
titre.
Des polices.
La meilleure des polices.
Scandée par Amé.
L'uniforme double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements. Elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on trache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés. C'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Cette découverte que vous avez faite nous paraît très intéressante. J'ose espérer que vous allez nous montrer un petit échantillonnage.
Certainement. Ce n'est qu'une protéine dérivée du pétrole basique. Savez-vous pourquoi je l'ai appelée globule A7? Parce que la globule A7 est un trimose qui contient deux fois plus d'albutac qu'une céréale du type B. On l'a testé, on la consomme. Quand je dis on, je parle des galinacées.
Mais votre globule A
On pourrait l'utiliser pour les hommes en la trafiquant un peu?
Ça va de soi.
Il suffit simplement d'ajouter l'ozone 4 à la formule originale. Sa teneur protéifique équivaut à 36 œufs et 10 litres de lait.
Allah est grand et nous avons d'énormes capitaux. Qu'est-ce que demande le peuple?
Eh bien, qu'est-ce que demande le peuple? Eh bien, il demande peut-être d'éclaircir certaines choses. C'est-à-dire qu'on va parler maintenant d'EDF qui, de manière assez sournoise, investit à l'international dans le gaz de schiste.
Alors, pour rappel, le gaz de schiste consiste à extraire les hydrocarbures de la roche mère située à plusieurs kilomètres de profondeur par l'injection d'eau et de produits chimiques sous pression. C'est ce procédé qui est appelé fracturation hydraulique. Il y a une triple pollution. L'eau utilisée pour la fracturation, puisqu'on y ajoute des produits chimiques qui sont jalousement gardés par les entreprises. Celle, c'est-à-dire l'eau des nappes phréatiques, ainsi qu'un dégagement de gaz à effet de serre. On peut donc se féliciter qu'aujourd'hui, l'État français a interdit l'extraction du gaz de schiste. Mais bien que l'État est actionnaire d'EDF à plus de 85%, l'entreprise publique d'électricité française exploite et achète des puits de gaz de schiste aux États-Unis.
Alors pas que aux États-Unis d'ailleurs, il y a des
Il y en a en Algérie, non?
C'est tout à fait ce que j'allais dire.
Au moins acheté en Algérie, je crois qu'on a pas mal couvert le sujet ces derniers mois.
Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on vous donnera un peu des news de ce mouvement-là, mais c'est vrai que c'était Total à l'époque qui maintenant en fait a investi non seulement en Algérie, mais aussi dans d'autres pays. Donc je crois il y a le Danemark, etc. Et d'autres, voilà. Et mais on continue. Donc du coup, entre autres, EDF investit
aux USA. Ouais. Donc on va plus se pencher sur la question des USA aujourd'hui. D'après l'article de multinational.org qui a mené son enquête, tout part d'une filiale EDF opérant loin du coup des regards du grand public. En fait, il s'agit de EDF Trading. Elle regroupe les activités de négoce du groupe et elle emploie un millier de personnes, principalement à Londres où elle a son siège et puis aux États-Unis. Donc EDF Trading est chargée de l'achat et de la vente de charbon, de pétrole, de gaz et d'électricité pour le compte du groupe EDF dont elle est une filiale quand même à 100%, ainsi que du négoce des crédits carbone. Pour optimiser ses activités de négoce, EDF Trading a été amené à acquérir des infrastructures de transport et de stockage de charbon, de gaz et d'autres matières premières. Et à présent, elle a aussi choisi d'acquérir et opérer directement ses propres opérations d'extraction de gaz. Pour ce faire, EDF Trading a créé une sous-filiale dédiée, donc EDF Trading Ressources, dont le siège social est à Austin, au Texas, et qui se présente comme une compagnie indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. Donc bien sûr, là, on avait mis des énormes guillemets qu'on n'a pas entendus parce que c'est la radio. Donc, elle est dirigée par une petite équipe de cadres issus du milieu pétrolier texan et EDFTR, donc compagnie indépendante d'exploration de production, ne possède en fait que deux zones d'opération. L'une est dans l'est du Texas, c'est environ 500 puits sur 120 km², et l'autre se situe en Pennsylvanie, dans le comté de Greene, qui correspond à peu près à la formation de gaz de schiste de Marcellus, soit à peu près 80 km².
Et est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce forage de Pennsylvanie?
Oui, bien sûr. Du coup, en fait, dans son rapport de développement durable 2014, qui, du coup, entre nous, a été retiré de son site web depuis la publication de l'article de multinational.org, EDF reconnaît recourir à la fracturation hydraulique en Pennsylvanie. Donc, ouvrez les guillemets. Le premier forage est prévu fin 2014, début 2015. Le projet est en phase de développement. Donc en ce moment, il y a une préparation pour premier forage et acquisition des droits fonciers. Fermez les guillemets. Précise le rapport de manière quelque peu anachronique, puisque ce document a été publié début juin 2015. Le site web de DF Trading Resources évoque quant à lui 45 puits en Pennsylvanie. Et on peut revenir un peu plus du coup sur la question du Texas. Du coup, à l'est du Texas, il y a aussi une zone d'exploitation de gaz de schiste. Mais EDF ne dit pas vraiment explicitement dans ce cas si elle y recourt ou non à la fracturation hydraulique, on ne le sait pas trop. Voilà, en gros, les actions que EDF a du coup aux States. Voilà, en ce qui concerne le gaz de schiste.
D'accord. Du coup, alors est-ce que j'ai pas le fil sous les yeux en fait.
Écoute, je crois qu'on est arrivé
peut-être
à peu près à l'heure.
Peut-être qu'on peut parler un peu des 10 ans de rébellion.
Voilà,
qui sont quand même un événement majeur sur Lyon.
C'est l'heure de l'agenda.
Ouais, on va introduire l'agenda avec ça. On peut introduire l'agenda avec ça.
Introduisons l'agenda avec ça.
Du coup, on en avait parlé la semaine dernière. Non, il y a 15 jours déjà. Vous étiez déjà au courant. Et c'est toujours d'actualité. Donc, la semaine prochaine. Commence une semaine de folie pour fêter les 10 ans de rébellion.info, qui est un site d'information sur Lyon. Et donc ça commence dès demain. C'est ça, samedi demain. Ouais, c'est
oui.
ça. Dès demain, avec une exposition au CEDRAT, donc en bas de la montée Saint-Sébastien. Mais ça, on verra peut-être plus en détail. Mais pour revenir en plus sur les 10 ans de Rébellion, c'est l'occasion, justement, Rébellion, donc c'est créé, a été mis officiellement en ligne en 2005. Et donc là, on est en 2015, c'est un peu plus de 10 ans puisque ça a été mis en ligne début 2005. Et donc voilà, à la base, ça s'est créé un peu dans la dynamique des sites d'info type Indie Media. Sauf qu'à Lyon, à l'époque, le modèle ne convenait pas à tout le monde et il a été décidé de faire un modèle un peu différent. Donc, avec un mode pareil, participatif, etc., mais sans open publishing. Open publishing qui veut dire, en gros, qu'un texte proposé n'est jamais modifié, que ça soit, quelle que soit la forme de modification. Donc ça peut être la mise en page, l'orthographe, etc. Donc voilà. Et donc ça, c'est un truc qui n'est pas fait justement par Rébellion, puisqu'il y a des modifications qui sont apportées. Et depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rébellion déjà est toujours là, et surtout, ça a donné des idées à d'autres villes et d'autres collectifs pour monter des sites d'information du même acabit. Donc on peut citer entre autres La Rotative, qui a été citée dans un des petits reportages qu'on a passé tout à l'heure. Donc La Rotative, qui est le site d'information de Tours. Il y a donc Yata, qui est le site d'information de Toulouse, qui est un peu sous les feux juridiques actuellement. Il y a la justice. Il y a Paris Lutte, donc à Paris évidemment, comme le nom l'indique. Il y a Marseille, il y a Reims, il y a voilà. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais si vous, par exemple, Reims, vous tapez reims.medialibre.org, vous allez tomber dessus. Pareil pour Marseille. Il y a aussi, on peut citer Genève aussi, qui s'appelle Renverse. Donc voilà, il y a Brest aussi qui est en train de se mettre en place, etc. Donc voilà, donc ça a donné des idées à plein de gens pour monter un peu des sites sous une nouvelle forme participative, etc.
Et donc, avoir accès à une information libre, plutôt complète également sur le local. Et d'ailleurs, dont on se sert beaucoup pour les canuts. Il
faut bien l'avouer, d'où tous les guillemets quand même.
Oui, le point commun à tout ça, c'est quand même tous ces sites font de l'information quasiment exclusivement locale. Donc voilà, donc c'est intéressant. Si vous voulez connaître ce qui se passe, à Paris, et pas forcément. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à Paris. Mais si vous voulez à Reims, à Tours, à Toulouse, savoir ce qui se passe, vous allez sur ces sites et vous verrez un peu Donc voilà, donc ça c'était pour un peu pour présenter les 10 ans de rébellion. Et puis du coup, toute la semaine prochaine, bah, y a tout un tas donc il y a des projections, des concerts, des ateliers, etc. Donc on va un peu vous détailler ça dans l'agenda qui suit. Tout de suite.
Qui commence tout de suite, du coup, avec déjà, on vous rappelle ce qu'on vous avait déjà dit en début d'émission pour ceux qui n'écoutaient pas en début d'émission, que ça commençait à 19h, mais là, il est encore temps d'y courir très très vite. Il y a la soirée sur les handicaps et les sexualités, stéréotypes et préjugés, qui se déroule maintenant.
La projection commence à 20h, donc vous avez encore 10 minutes.
Voilà, c'est pour le premier court-métrage, mais il y en a deux.
Et on vous en voudra pas si vous arrêtez de nous écouter pour ça.
Du coup, vous êtes large. Donc c'est le collectif Intermed qui propose cette soirée débat avec deux courts-métrages venez dire ce que vous pensez des handicaps et des sexualités autour de ces courts-métrages. Ensuite, au même moment, si vous n'avez pas envie d'aller là-bas, vous pouvez aller au Ciné du Cher, où il y a une projection débat aussi, mais contre le projet de loi immigration, qui est en ce moment en débat. Demain, il y aura à la place des terreaux un rassemblement en solidarité avec le peuple grec, avec des prises de parole, du théâtre et de la musique. Ça se déroule du coup place des terreaux de 10h à 13h. Et juste après, il y a la cantine solidaire, comme tous les samedis, du CSAO Le Haraga. Du coup, ils organisent des cantines en soutien à des luttes qui sont différentes chaque semaine, qui sont définies avant le repas. Et voilà, ça se déroule au fond de la rue Cyrano, de 12h à 15h. Et faut y aller assez vite, parce qu'ils ont leur rendu du procès lundi et risquent très fortement l'expulsion immédiate. Voilà, donc fond de la rue Cyrano, de 12h à 15h, tous les samedis. Ensuite, on continue pendant le week-end. Du coup, dans le cadre des 10 ans, il y a l'exposition 50 ans de presse alternative à Lyon et dans sa région au Cédra, du coup, tout l'après-midi. Et dans l'après-midi, il y a la marche des parapluies, qui est une marche de lutte contre le projet de loi contre l'immigration, qui part de la place de la République à 10h30. Qui part à 14h place Bellecour et qui arrive, qui se termine à la Plume Noire le soir avec un bar et musique. La Plume Noire, donc, dans les pentes de la Croix-Rousse. Ensuite, dimanche, il y a la fête de la musique à la CNT avec un conteur, chorale et homme orchestre. Et ça se déroule tout l'après-midi de 16h30 à 23h. Lundi, comme tous les lundis, il y a la permanence juridique de soutien aux sans-papiers à la Lutine, qui est également 92 rue Montesquieu, juste à côté de l'atelier des canulars. Donc, pour s'y rendre, si vous avez des problèmes de papier ou si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de papier, ils donnent de super bons conseils. Ensuite, une projection débat sur IVG 40 ans après, où en sommes-nous? Donc avec la projection du documentaire IVG 40 ans après, et pas mal de gens qui viennent discuter de ces problématiques, et ça se déroule à 19h30 au Palais du Travail lundi. Mardi, toujours dans le cadre des 10 ans de rébellion, il y a la journée informatique et sécurité au LOL, laboratoire ouvert lyonnais, qui est place Louis Chausette sur les quais de Saône, c'est ça?
Quai du Rhône.
Quai du Rhône, ouais, c'est ça.
Oui.
Et d'ailleurs, si tu peux nous dire un peu plus sur cette journée informatique, c'est quoi?
Ça va être atelier donc d'installation de Linux, atelier sécurité, donc comment sécuriser un ordinateur, ses mails, ses communications, etc. Et ensuite, c'est dans le cadre des 10 ans de rébellion, et donc du coup, il y aura une présentation un peu de l'espace collaboratif de rébellion, comment ça fonctionne, comment participer, etc., etc. Donc voilà.
Super. Ok. Et le lendemain, mercredi 24, toujours à la télé des canulars, et dans le cadre des 10 ans de rébellion, il y a une soirée anticarcérale qui commence à 18h30 avec notamment des comptes pour portes à ouvrir par Alain Cangina et Lionel Perrin, et un débat sur l'abolition des prisons. Du coup, qui se déroulera toute la soirée. Ensuite, le jeudi, toujours dans le cadre des 10 ans, il y a Place Mazagran, quelque chose qui est organisé par le crieur public de la Guillotière sur la gentrification de la Guillotière. Comment ?
Qui est Lionel, le conteur.
Qui est Lionel, le conteur, ouais. Et du coup, j'imagine que les guillotins aussi sont de la partie. Et il y a un événement qui est la visitrification de la place du Jardin Orange. Alors j'avoue, j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire que la visitrification. Mais j'imagine que c'est quelque chose autour de la mise en vitrine. Voilà, et jeudi, n'oubliez pas, du coup, jeudi soir, il y a l'émission de messages aux détenus sur Radio Canu. Dans le cadre de l'émission de la petite cuillère, vous pouvez envoyer des messages téléphoniques qui seront diffusés pour les détenus de la région lyonnaise entre 20h et 21h.
Voilà, et à rappeler que donc une bonne partie du programme que l'on vient vous donner, vous pouvez le retrouver sur rebellion.info avec donc tout le programme des 10 ans.
Voilà, et alors officiellement on va terminer quand même 5 minutes avant. C'est rarissime. Bon bref. Peut-être un dernier mot à dire pour.
Pour les auditeurs, vous avez eu raison d'écouter Radio Canu. Vous avez eu accès à une information libre et indépendante, des chroniqueurs de qualité.
Nous fermons à présent les guillemets.
Et on vous laisse vaquer à vos occupations. Courez à l'atelier des canulars.
Voilà, et alors exceptionnellement, il me semble qu'il n'y aura pas d'émission Noise Pollution par la suite. Donc on vous laisse avec les fameuses et célébrissimes bandes continues de Radio Canu. Au revoir.
Radio Canu, ça continue.
Bon week-end.
Ciao.